Bonsoir à toutes et tous, il est 20h, vous êtes sur Radio Lodève, c'est du bruit dans les feuilles. On est trois aujourd'hui dans le studio, moi c'est Tanguy, je suis accompagné avec Anna.
Salut.
Et Raphaël.
Bonsoir.
On est de nouveau très content d'être avec vous ce soir et on va commencer cette petite émission.
Avec la chronique de l'arbre du mois que tu nous présentes et c'est le cornouiller mâle, ou peut-être que tu voulais dire quelque chose avant.
Non, c'est très bien, commençons par l'arbre, c'est l'essentiel et c'est un peu le cœur de notre propos. Et du coup, oui, j'avais choisi de vous parler du cornouiller mâle pour une raison simple, c'est qu'en ce moment, il est absolument étincelant de fleurs jaunes. Ça fait vraiment des grosses taches jaunes dans le paysage. Si vous habitez sur le Causse, il y en a beaucoup. C'est un arbre qui aime bien les sous-sols secs, pauvres et calcaires. Et du coup, il est très présent sur le plateau du Larzac. On le trouve un peu moins dans la vallée, mais moi j'en ai un pas très loin de ma campagne qui surplombe l'Odève. Donc il y a quelques individus. C'est un petit arbre ou un arbuste, en tout cas il pousse pas très très fort. Par contre, il a une vraie longévité, c'est un arbre qui vit très longtemps. Il partage avec le coniacier la particularité d'avoir souvent servi à faire du bornage, c'est-à-dire qu'on le plantait aux limites des propriétés pour faire les coins. C'est des arbres qu'on utilisait parce que même si on les coupe, ils repartent toujours de racines et ça permettait que le voisin puisse pas manger un mètre ou deux sur la parcelle. Donc on plantait souvent des arbres pour cette fonction-là. Le coniacier, carrément, ça a donné son nom. Un coniacier, ça vient de coin et c'est aussi parce qu'il était utilisé pour le bornage. Revenons au cornouiller. Pourquoi j'en parle aussi? C'est parce que... Tu voulais dire un truc, Raphaël?
Non, je découvre le nom du coniacier. Moi, je pensais que c'était lié au... Ouais, non, bah, voilà. Merci.
Il y a des lumières qui s'allument
dans
le studio.
Même au studio, on apprend des trucs. C'est sympa. Et donc, du coup, le coniacier, laissons-le de côté. On y reviendra dans une autre chronique. J'avais envie de vous parler du cornouiller parce que c'est aussi un de nos fruits sauvages. Ces fruits qu'on a un peu oubliés depuis l'avènement de l'industrie, jamais sur les étals de marché vous allez trouver des cornouilles. Pourtant c'est un fruit qui a été très utilisé parce qu'il faut bien savoir que avant qu'on ramène des fruitiers un peu partout d'Europe et d'Asie, on a mangé ce qu'il y avait sur place, quoi. Et donc sur place on n'avait pas tant de fruitiers que ça, le sucre était rare et on n'allait pas laisser de côté une ressource sucrée. Et du coup, le cornouiller, c'est un fruit qui est assez sympa à manger. Il faut attendre qu'il soit bien, bien mûr. C'est-à-dire que, je ne sais plus exactement à quelle période, je dirais septembre, le fruit prend d'abord, il a un peu la taille d'une olive. Ça ressemble assez fort à l'olive, si ce n'est que c'est rouge. Et ça va virer même au noir. Et pour le manger, il faut vraiment attendre qu'il soit noir. Avant, il est très acide.
C'est ce que tu expliquais dans une autre chronique, non? Sur il faut qu'il soit blé.
Alors c'est juste avant le blettissement pour la cornouille, je sais pas si on peut parler de blettissement, parce que souvent blettir c'est un truc qu'on fait aux fruitiers, c'est-à-dire qu'on cueille les fruits et on laisse blettir après, c'est le cas pour la nèfle, c'est le cas pour le kaki. La cornouille sur l'arbre elle finit noire et on peut la manger presque directement. Cela étant, la plupart des recettes conseillent plutôt la confiture de cornouille qui est très connue. Et puis après là je feuilletais ma petite bible de Lyotagui sur les arbres et il parle de vieilles recettes où carrément on cuisinait les cornouilles avec des préparations salées, quoi, des saumures avec du sel, du fenouil, de l'estragon et du laurier.
Quel goût?
La cornouille c'est acidulé et sucré. C'est assez proche de certains bonbons Haribo. Non, je plaisante. Je dirais acide et sucré, mais l'acidité est toujours présente. Et quand on les mange pas mûres, elles sont trop acides et le sucre est pas encore assez présent dans le fruit. Donc, faut bien attendre. Alors, vraiment, en ce moment, vous pouvez pas le rater. Si vous voyez un arbre qui fleurit jaune vif, il a beaucoup de fleurs. Si c'est pas du mimosa, le mimosa, on va le reconnaître quand même à l'odeur et c'est vrai qu'il est fort en fleurs en ce moment. Le cornouiller est plus discret. Mais c'est lui, quoi. On peut pas le rater.
Et plus tard, autour de chez nous, plus tard, on en voit d'autres, des arbustes qui fleurissent jaune, la luzerne, le genêt. C'est bien plus tard, ça.
La luzerne arborescente, elle va pas tarder à fleurir. Et le genêt vient assez vite derrière, je dirais fin mars. Non, on a beaucoup de floraisons jaunes. Mais bon, là, on parle vraiment de petits arbres, quand même. Hein. Ça peut monter à 5-6 mètres de haut. Et c'est quand même des jolis volumes quand ils sont âgés.
Il a quel genre de feuilles, du coup?
C'est des feuilles simples, alternes, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est alterne. Et il a une particularité, c'est qu'il est, il pratique absolument pas l'autofécondation. Il porte les deux fleurs sur le même arbre. Hein. Il a des fleurs mâles, même hermaphrodites, je crois. Mais par contre, il a absolument besoin du mélange. C'est-à-dire que si vous avez un sujet isolé, il fera très peu de fruits, même s'il est couvert de fleurs. Il faut forcément qu'il y ait plusieurs sujets pour que le cornouiller pollinise bien. Cela étant, dans les stations où il se plaît, il est souvent en nombre et donc on a assez souvent des cornouilles sur les cornouillers. Donc voilà encore un arbre fruitier sauvage à redécouvrir.
Donc, s'il s'appelle cornouiller mâle, c'est absolument pas lié à son sexe à proprement parler. D'où vient cette appellation
Alors, c'est une appellation curieuse, effectivement. On dit cornus mas, donc c'est son latin. Je feuillette mon livre quand j'ai pas la réponse. Lui, il dit mâle par opposition sans doute avec un arbrisseau à bois tendre dénommé cornus femina. Mais alors, on dit dénommé, c'est une citation qui date de Pline l'Ancien, donc c'est pas tout jeune. Et Lyotagui dit que ce cornus femina peut être un ancien nom du camérisier que je ne connais pas.
Mais donc, mâle-femelle, ce serait lié à la dureté et à la tendresse du bois, plutôt, si je comprends bien.
Peut-être à la dureté du bois, parce que c'est un bois... En même temps, je vois pas bien pourquoi le mâle serait... Oui, si, on peut associer le mâle et la dureté.
Je sais pas, il y a écrit... Enfin, tu t'as dit féminin, bois tendre. Du coup, je me dis peut-être le masculin. Enfin, c'est une pure supposition.
Non, mais ça paraît tout à fait plausible, d'autant que le bois du cornouiller avait beaucoup d'usages. Ça fait partie des bois très denses. J'ai déjà parlé du cormier qui est un bois très dense. Le cornouiller partage cette fonction-là. Du coup, on l'utilisait pour faire des manches d'outils et aussi des barreaux d'échelle et tous ces bois durs qui ont eu vraiment beaucoup d'usages dans la paysannerie. C'était important, les bois denses. Hein, on n'avait pas... de matériaux disponibles à part le bois pour les petits usages paysans, et du coup ces bois qui étaient durs étaient souvent très recherchés pour ça. Donc c'est un bois qui a eu beaucoup d'usages. Il a aussi servi à faire des javelots, au point que cornus s'est resté, et c'était un nom qui parlait du javelot. Le javelot s'appelait cornus chez les Romains. Donc voilà, ça parlait de... C'était l'arbre et l'arme qu'on en faisait.
Et
voilà.
Je viens de comprendre aussi, du coup, le nom du village, là, sur le Causse, Cornus ?
Sûrement. Alors, sur le Causse, vraiment, il y a des stations où il y a énormément de cornouillers. Les abeilles le butinent et il y a une tendance à dire que ça les rend malades. Bon, c'est pas attesté, je crois, par les modernes. Voilà, que dire de plus sur le cornouiller ? Ben c'est tout, redécouvrez-le, essayez de manger des cornouilles, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger de nos jours, et c'est dommage de pas voir la ressource là où elle est.
Merci beaucoup Tanguy pour la présentation donc de cet arbre qui nous a ébahis de toutes ses propriétés. On passe maintenant au dicton du mois. Alors qui est, notez bien, taïto, taïtar, taille en mars. Une petite explication, messieurs, dames ?
Moi, si je peux me permettre, en entendant ça, vu qu'on va plus tard parler de la vigne, c'est un peu tard pour la vigne. Donc ceux qui sont dans le coin, ils se disent, bah non, justement, en mars, va falloir terminer la taille de la vigne. Alors, de quel arbre et de quels arbres il s'agit, Tanguy ?
Alors, il y a beaucoup de fruitiers qu'on peut tailler en mars. Le plus connu, et je trouve que ce dicton, à mon avis, ça, là où il s'applique le mieux, c'est pour l'olivier. L'olivier, c'est très typiquement la taille du mois de mars. Parce qu'on va attendre les dernières grosses gelées qui peuvent intervenir sur la fin février, donc on s'en méfie beaucoup, et on évite de mettre des coups de sécateur juste avant des grosses gelées, parce qu'on risque d'avoir une gelée qui descend dans les branches par les plaies de taille. Du coup, on va attendre le début du mois, et donc taille tôt, taille tard, mais taille en mars, ça s'applique vraiment bien à l'olivier. Au-delà de ça, il y a d'autres arbres fruitiers qu'on taille traditionnellement au printemps. Pas mal de noyaux, le pêcher se taille traditionnellement au printemps. Le pêcher, c'est un arbre qu'il faut tailler parce que sinon il va faire trop de fruits et vous aurez des toutes petites pêches. Et donc traditionnellement, on taillait le pêcher en mois de mars, au moment où il est en fleur. Ça permettait de faire des jolis bouquets odorants à mettre sur la table de la cuisine avec le bout des branches. Et on garde que 2-3 fleurs par petite branche fructifère, de manière à les faire gonfler et à avoir des fruits un peu épais. Voilà, donc globalement, les fruitiers, on peut encore les tailler au mois de mars, hein, c'est pas trop tard, et puis on est après les gelées. Donc taille tôt, taille tard, mais taille en mars, ça s'applique pas mal à tous les fruitiers, mais plus précisément, moi je dirais prunus, et enfin prunus, vous voyez, c'est tous ceux qui ont des noyaux, et puis l'olivier, c'est vraiment, vraiment là qu'on doit tailler l'olivier et les arbustes de terre chaude, quoi, qui gardent leurs feuilles.
Merci Tanguy, et on passe, attention, à la petite pause musicale qui nous vient de Rice et Barrier, qu'on a déjà entendu dans une précédente émission. Et la chanson s'appelle « Voilà le printemps ».
Oui, la chanson s'appelle « Isabelle, voilà le printemps ». Rice et Barrier, c'est un peu daté, mais moi, ça me fait mourir de rire, alors je partage.
Isabelle, debout. Là, le printemps. Eh ben, oui, pas ce feignant, Dieu. Bon Dieu, là, le printemps qui s'amène, va falloir retourner aux gens. labouré, sarclé toute la semaine. Bon Dieu, le printemps, c'est fatigant. Fini de faire la cour aux fumelles, les soirs d'hiver à la veillée. Quand le printemps vient tirer la ridelle, tout le monde au champ jusqu'au coucher. Moi, ouais, viens. Isabelle, faut que je ferme le cheval, amène l'enclume. Eh ben oui, quoi ce feignant dans l'orieux. Le printemps dit que ça sent la rose, le lilas et puis le jasmin. Pour moi le printemps ça sent autre chose, puisqu'on sort la tonne à purin. Fini de faire la cour aux fumelles, les soirs d'hiver à la veillée. Le printemps fait gonfler les mamelles, c'est celle des vaches qu'il faut tirer. Ouais, ouais. Isabelle, tiens mon taureau, j'amène Blanchette. Au printemps, on dit que les gamines à se mettre des robes claires à pompons. Je la vois, Elisabelle en mousseline, en train de curer l'auge à cochon. Fini de faire la cour aux fumelles, les soirs d'hiver à la veillée. Il n'y a plus de molle, il n'y a plus de fumelles, quand le charançon il se met dans le blé. Oh là, c'est pas la catastrophe, ça ouvre. Isabelle, pousse un peu le tracteur, je suis embourbé. Eh ben oui, bouche, bouche. Le blé jaune, le printemps se termine, arrive le repos de la Saint-Jean. Les gars vont courir, les gamines, ils vont se faire des choses, les malounettes. On va faire la cour aux fumelles, puisque la Saint-Jean est revenue. Viens t'en par là, mon Isabelle, on va rattraper le temps perdu. Eh ben oui, ouais, c'est un feignant dans la rue.
Voilà, Rissé Barrier, notre ami Berrichon, qui nous chante le printemps. On retourne à notre thématique de la taille des oliviers. Donc, on a entendu ce petit dicton « taille tôt, taille tard, mais taille en mars ». Tanguy, explique-nous du coup un peu plus comment ça se passe, la taille des oliviers.
Alors, l'olivier, c'est un arbre qu'on taille fort. Pourquoi on le taille fort ? D'abord parce qu'il est, c'est un arbre qui, si on le laisse partir tout seul, il va monter haut. Hein. C'est un arbre très très grand. Alors dans notre région, comme on cultive beaucoup d'olives pour la confiserie, pour la bouche, c'est-à-dire qu'on va les manger, on va pas forcément faire de l'huile avec, on a besoin d'avoir accès aux olives manuellement et de les cueillir à la main. Et ça, ça demande que les arbres soient maintenus bas. Et du coup, on va dans tous les cas tailler de manière assez forte pour que l'arbre reste près du sol et qu'on puisse faire une récolte manuelle. C'est pas forcément le cas de toutes les olives. Il y a des olives qu'on utilise pour faire de l'huile. Et c'est pas, on laisse parfois monter les arbres un peu plus haut quand c'est des arbres qui sont destinés à faire de l'huile. Mais dans la région, on a une taille assez classique de l'aluc qu'on appelle la taille en plateau. Et c'est une taille assez forte. Alors quand je dis assez forte, il y a deux choses. D'une part, c'est pratique l'olivier parce que c'est un arbre qui pardonne. Vous pouvez tailler même très mal et il va s'en sortir. Enfin, je veux dire, il y a pas de maladie qui va se mettre dans le bois mis à nu. Il repart toujours. Il y a des bourgeons dormants un peu partout. Donc, si on prend pas garde à l'endroit où on taille, il y aura de toute façon des nouvelles branches qui vont se développer. Donc, face à l'olivier, n'ayez pas peur d'utiliser votre scie. Vous lui ferez pas mal et il s'en remettra. Hein. On touche vraiment à l'immortalité, de toute façon, avec l'olivier. J'ai souvent usage de dire que l'olivier, c'est un arbre absolument de culture. C'est-à-dire que si on s'en occupe, il est complètement immortel. On voit rarement des oliviers périr. La seule chose, finalement, qui va le faire périr, c'est quand on l'abandonne et que les essences qui sont autour lui volent sa lumière. C'est une essence absolument de lumière. À l'ombre, il va complètement périr. Alors, pour la taille, on a manière de dire que pour que l'olivier soit bien taillé, il faut qu'un oiseau puisse le traverser sans toucher les branches. Donc, ça vous donne un peu une idée parce que l'olivier fait beaucoup beaucoup de branches et donc vous avez intérêt à en retirer pas mal. Alors après c'est des règles de taille plus généralistes, hein. On en parle des fois dans des formations qu'on peut organiser à Pays-Arbres, comme éviter que les branches s'entrechoquent avec le vent, parce que tous les endroits où il y a des chocs, moi j'appelle ça des conflits, les conflits de branches, ça vous empêche une bonne fructification parce que les fleurs vont être cassées quand il y a du vent, des choses comme ça. Donc pour tailler l'olivier en plateau, souvent on essaye de lui former une charpente assez basse, et sur cette charpente on va laisser des branches qui vont repartir vers le ciel, hein, il a cette tendance à monter et ça va fructifier pendant 2, 3, 4 ans. Quand cette branche elle a un peu fructifié et qu'elle a grossi, on la supprime et on laisse repartir une branche ou deux qui vont renouveler comme ça les branches pour fructifier. Il faut savoir que l'olivier fructifie plutôt sur du bois jeune et que donc le vieux bois ne va plus porter de fruits. Donc l'idée de la taille de l'olivier, c'est tailler fort pour qu'il fasse du nouveau bois, parce que c'est ce nouveau bois qui est vecteur de fruits et qui est promesse d'abondance. Alors voilà, tailler fort, laisser passer l'oiseau à travers. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais au mois de mars, c'est vraiment le top pour tailler l'olivier. On craint plus les gros gels et c'est parti.
En général, les oiseaux réussissent à passer à travers les branches des arbres. Enfin, il me semble que c'est quand même leur caractéristique. Du coup, moi, on m'avait dit que il fallait pouvoir voir le ciel à travers l'olivier. Quand on regarde un olivier, qu'il fallait pouvoir voir à travers pour avoir une bonne indication de est-ce que c'est assez aéré à l'intérieur.
Oui, pourquoi pas, c'est une autre façon de voir les choses. Bon, d'une manière générale, voilà, si vous voulez du fruit, il faut tailler fort. Après, si votre olivier, vous le gardez dans le jardin parce que vous trouvez ça joli et ornemental, c'est pas la peine, vous pouvez le laisser monter un peu plus haut. Moi, j'ai visité des oliveraies au Maghreb ou en Espagne où les arbres sont beaucoup plus hauts. Finalement, on monte des fois à 8-10 mètres et c'est les plus jeunes qui montent avec des gaules et ils vont frapper les arbres ou ils vont avec des râteaux les brosser, parce que c'est plutôt des olives qui sont destinées à l'huile, et du coup, si elles sont un peu heurtées, si elles vont vite au moulin derrière, il y aura pas de, les fruits seront pas plus abîmés que ça. Et donc, du coup, c'est vraiment le mode de culture qui va imposer une forme de taille. Vous n'êtes pas non plus obligé de tailler de très très fort si vous récoltez pas vos olives et que ce que vous aimez, c'est ce magnifique feuillage blanc argenté. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient juste pour l'ornemental et auquel cas, c'est pas forcément la peine de tailler aussi fort. Voilà.
Merci Tanguy pour ces explications autour de la taille d'olivier. Je pense qu'on est, vous êtes peut-être très nombreux à nous écouter, à avoir des oliviers dans vos jardins. Ça permet d'approcher un peu cette thématique. Pour la suite, nous avons le petit bilan de la fête de l'arbre, c'est-à-dire notre invité du samedi soir, Monsieur Ernst Dürcher, qui est venu de Suisse pour nous parler sur la base de son ouvrage qui s'appelle L'arbre entre visible et invisible. Donc nous avons apporté ici un petit son sur cette conférence. Tanguy.
Oui, au-delà de ça, moi j'avais envie de faire un petit retour plus général sur cette petite fête de l'arbre, parce que pour nous ça a été un moment vraiment fort, dit Raphaël, moi je dirais intense, pour aller encore plus haut et en rajouter.
Et joyeux.
Et joyeux aussi, voilà. Alors intense, fort et joyeux, c'est pas mal pour le définir. Et intelligent aussi. Moi, j'ai envie de parler d'intelligence parce qu'il y avait vraiment du niveau, aussi bien quand on s'est réunis au cinéma, les discussions qu'on a eues sur la nature, la culture, notre place avec ce qui nous environne.
C'était autour du film L'étreinte du serpent de Ciro Guerra. Et effectivement, il y a eu des beaux échanges quoi, autour de la... Pas du totémisme, comment ça s'appelle? De l'animisme? Non.
Du chamanisme.
Animisme, bien sûr. Et ouais. Sur les différents rapports finalement qu'on peut avoir avec la nature en fonction des sociétés dans lesquelles on est immergé. Donc les gens qui considèrent la nature comme un truc extérieur, les gens qui pensent que la nature c'est un tout et qu'on est juste traversé par un flux. Voilà, il y a des façons différentes d'envisager le rapport à l'autre finalement. On a beaucoup parlé de ça finalement tout le week-end. Et moi j'ai eu beaucoup de retours de gens qui sont venus un peu en curieux, sans vraiment avoir d'attente, et qui ont été quelque part... Alors ça me fait sourire, ils ont été métamorphosés d'une certaine manière, parce que ils s'attendaient pas à ce que, en parlant de l'arbre, on parle du tout, qu'on parle de la vie. Et même la discussion qu'on a eue le samedi après-midi, donc c'était carrément il y avait un certain niveau au niveau des intervenants. On a eu la chance d'avoir Maurice Chaudière, il y avait Bruno Servenne, donc lui qui est plutôt sur la part technique, agroforestière, agroforesterie, l'arbre appliqué dans nos cultures, dans nos villes, quels sont les apports réels. Donc il y avait la Zürcher qu'on va entendre, j'ai gardé un petit son qu'on va vous diffuser juste après pour s'en souvenir et lui dire au revoir et le remercier d'être venu nous voir, parce que c'était vraiment chouette aussi qu'il soit avec nous. Et puis donc voilà, Maurice Chaudière a amené quelque chose de plus philosophique, de plus poétique. Et puis le public derrière a encore rebondi et on a vraiment complètement quitté l'objet d'étude arbre pour parler de la vie dans son ensemble et des rapports qu'on peut avoir avec les autres, de la différence, de l'altérité et de la façon dont on peut interagir avec les autres, aussi nombreux et différents soient-ils.
C'est marrant parce que j'ai mangé avec Bruno Sirven et Ernst Zürcher samedi soir. Et Bruno Sirven, il a dit, mais en fait, ça fait 24 heures, on n'a toujours pas parlé d'arbres. Et en fait, on faisait que ça, de parler d'arbres. Mais comme on parlait de lui, de l'arbre dans son univers le plus large, effectivement, on parlait des rythmes biologiques, on parlait de tellement de choses, comme on disait là au cinéma, de comment on voit l'arbre, comment on perçoit l'arbre, comment on inclut la nature dans notre culture. On parlait pas effectivement de ses feuilles et de ses branches, mais on parlait que de lui au travers de tout un tas d'autres thématiques.
Voilà, et rajoutant à ça, les petites animations, les sorties botaniques qui ont eu beaucoup de succès, il y avait un monde fou, on a eu un temps magnifique, il n'y avait pas de vent, le soleil était au rendez-vous, les enfants riaient dans le grand cèdre du Secours Populaire, on les voyait de plein de points de la ville. Je parle même pas des petits points blancs de notre scénographe qui ont fait beaucoup parler. Merci à elle, merci à Garance pour sa belle attention et son travail qui a vraiment été pertinent aussi. On n'a jamais autant parlé d'arbres à l'ODEF que pendant ce week-end. Le pari était réussi. Mmh. On a envie de recommencer l'année prochaine. On est encore un peu excités et nourris de ce moment. Et on est très heureux de l'avoir partagé avec vous. Pour ceux qui l'auraient raté, vous pouvez même nous retrouver sur YouTube. Il y a une petite vidéo, vous tapez la petite fête de l'arbre. Vous aurez un petit teaser, comme on dit, pour faire moderne.
Un medley à l'ancienne, non ?
Un medley, je sais pas. Alors là, moi, tous ces mots américains, je suis pas trop au top. Tout ça pour dire que c'était chouette.
Et plein de moments différents, de la fête, de la discussion, du partage. On a eu des bénévoles hyper impliqués, hyper souriants, hyper débrouillards. Et ça, c'était drôlement chouette aussi de s'ouvrir à d'autres personnes, que notre équipe de Paysarbre s'ouvre à d'autres personnes qui passaient par ici ou qui voulaient nous donner un coup de main. Donc, et puis aussi les partenaires habituels, enfin habituels entre guillemets, hein, c'est que la deuxième petite fête de l'arbre, mais on a été super bien accueillis au cinéma. Il y a Radio Lodev aussi qui nous a permis d'enregistrer la conférence de Monsieur Zürcher. C'était un beau moment humain.
Je tiens juste aussi à remercier par rapport au dimanche après-midi à nos vignerons qui sont venus. On a eu 6 vignerons qui sont venus nous rejoindre pour une petite table ronde et dégustation juste avant, toujours à la salle du Triomphe. Et l'échange a été très, très riche aussi et très intelligent, comme tu as dit, Tanguy. Sur les pratiques d'agroforesterie, de complantation dans les vignes et de ce qui se fait ici localement maintenant et quelles idées émergent dans la tête des vignerons qui ne sont plus uniquement des viticulteurs mais qui voient leur territoire, leur terroir comme quelque chose qui peut monter d'un étage au-dessus de la vigne et qui, on a eu un très très bel échange sur ces pratiques. On a eu la chance de goûter des très bons vins. Avant et après, donc merci encore à vous et en espérant de pouvoir élargir l'année prochaine aussi à cette vigne qui nous entoure et qui est aussi entourée d'arbres dans notre territoire.
Voilà, ça fait une bonne transition pour le son qui vient derrière. C'est un son que j'ai récupéré de Monsieur Zürcher, pour ceux qui auraient raté sa conférence, où il reprend très rapidement les apports de l'arbre et il y a une petite portée sur l'agriculture. Je vous laisse écouter ça. Ernst Zürcher.
Habituellement, on voit l'arbre seulement sous forme d'un segment d'un fût servant à produire du bois, alors que l'arbre, c'est beaucoup plus. C'est un système racinaire, c'est une couronne. J'aimerais apporter quelques éléments complémentaires à ce qui vient d'être dit ce matin concernant les points relatifs à la question du carbone lié à l'arbre et lié à ça d'autres fonctions, et en particulier l'eau. Ça nous permettra de mieux comprendre comment l'arbre participe à la structuration et à la mise en place de la vie dans les sols. Et finalement de ne plus les voir comme compétiteurs, mais plutôt comme partenaires. Tout d'abord, le secret de l'arbre. Comment est-ce qu'il arrive à coloniser l'espace et le temps, devenir un organisme à 3 dimensions ? C'est que l'arbre constitue un organisme coloniaire, comme Francis Allais a aussi développé le concept. Les bourgeons, chaque année, se redéveloppent sur une strate, sur une base organique déjà existante. Et ça permet à l'arbre de créer une structure dépassant la structure à deux dimensions de la culture agricole et d'entrer dans la troisième dimension et la quatrième avec le temps. Et ceci permet aussi de créer un organisme qui a un espace interne et un espace externe. Donc on est bien ça pour la forêt, qui a une atmosphère forestière intérieure à la forêt par rapport à l'atmosphère externe. Pour les haies vives, en fait, c'est aussi le cas si les haies ne sont pas trop étroites et les arbres, à partir d'une certaine dimension, ont aussi cet aspect ou cette propriété. Donc, créer un climat propre qui permet à la biodiversité finalement de se développer, protégée par ce climat. Le prochain élément, maintenant j'arrive tout de suite au carbone, c'est que la base de tout ce qui est renouvelable, c'est en fait la photosynthèse actuelle. Et cette photosynthèse, la formule connue de tous, intègre l'énergie solaire, prend du CO2 de l'atmosphère, de l'eau, des circuits hydriques. Et ce qui est intéressant, beaucoup moins connu, c'est que l'eau est scindée. Le carbone, le CO2 est scindé, tout est recomposé pour créer du sucre, de la nouvelle eau et du nouvel oxygène. C'est absolument intéressant, c'est que tout ce que produit l'arbre est nouveau. Et c'est des quantités intéressantes. Dans la deuxième partie, au bas de l'image, vous avez l'équation qui est retranscrite pour le bois. Pour créer 1000 kg de bois à l'état sec, l'arbre absorbe 1851 kg de CO2 et 1082 kg d'eau pour faire de la nouvelle eau et du nouvel oxygène en plus de ces 1000 kg de bois. Donc on a un rapport presque de 2 à 1 pour cet aspect de capter le carbone et produire de la biomasse, produire de la substance et surtout produire de la vie. Je n'ai pas le temps d'entrer en détail ici. Ici sur le modèle d'un arbre adulte qui aurait peut-être 100 ans. On ne doit pas tous les abattre à courte rotation. Cet arbre, dans une journée relativement ensoleillée, produit 13 kg d'oxygène, 12 kg de sucre en absorbant 18 kg de CO2. Et à la fin de l'année de la période de végétation, il aura fait 0,2 m3 de bois en plus. Et si on veut remplacer cet arbre pour avoir la même fonction, le même nombre de feuilles, la même quantité de photosynthèse, il faudrait replanter 2000 jeunes arbres de 1 mètre cube de houppier. Voilà à peu près les dimensions que représentent les arbres avec le temps. D'où vient cette substance? 99,8%, 99,8% de la masse organique de l'arbre provient en fait de substances invisibles, du CO2 de l'air et de l'eau, les cycles de l'eau, et seulement une fraction de pourcent de sels minéraux, mais très important malgré tout. Ici, quelques chiffres concernant une haie vive de 100 mètres. Sur la base d'un principe de la forêt, c'est que la forêt proche de la nature, les haies vives aussi, les arbres champêtres, en fait, sont capables de pousser sans aucun intrant, sans apport d'énergie fossile indirectement. Et de tels organismes, de telles structures sont capables de faire 2 tonnes de biomasse de bois 5 ans après une dernière coupe pour une haie de 100 mètres. Ici, du point de vue biomasse, mais on a tout l'aspect de la biodiversité. Ce graphique représente aussi la nuance qu'il faut faire selon les essences. Selon les systèmes forestiers ou selon les systèmes d'arbres et de haies, vous aurez plus ou moins de biomasse aérienne par rapport à la biomasse racinaire et biomasse terrestre. Ici, des chiffres aussi pour illustrer un peu ce qui se passe dans les systèmes agroforestiers. C'est que les systèmes racinaires, on a entendu, descendent jusqu'à 17 mètres. C'est du carbone qui descend, qui est formé et qui est stocké en profondeur et qui va se décomposer beaucoup plus lentement. La minéralisation est plus lente. Et selon les essences, on a donc ici un stock, un capital carbone très important. Une notion importante ici, c'est la biodiversité et des corridors de biodiversité. Des arbres individuels sont importants, ont un rapport extrêmement spectaculaire, mais les haies, sous forme de cordons fermés qui protègent surtout les cours d'eau, sont aussi très importantes. Ça permet aussi aux espèces de la faune de circuler à travers le paysage. Et ceci structure aussi le climat local. Stockage de l'eau. Plus vous incorporez de masse organique et plus le sol va être capable d'absorber de l'eau. Ici, on a un essai, on peut faire ça. Les recherches doivent être intensifiées, mais ici, un essai d'incorporation de compost dans le terrain par rapport à un témoin. Et on constate que la quantité d'eau absorbée augmente de manière significative, plus du double. Encore une dernière notion, c'est que le carbone stocké doit être comparé au carbone produit. Il y a des formes d'agriculture qui sont en train d'utiliser plus d'énergie d'origine fossile pour produire des calories organiques. La forêt est en situation relativement intéressante, c'est que pour 100% de carbone sous forme de bois d'œuvre, il faut 15% seulement d'énergie investie pour avoir le produit. Et ceci pourrait être le but pour l'agriculture, c'est d'être de nouveau positif par rapport au bilan global carbone fossile par rapport au carbone produit organique. Et des études au niveau du carbone dans l'agroforesterie, ça vient de paraître sous forme d'un livre passionnant, ont montré que des chercheurs américains estiment qu'en faisant de l'allée cropping, des rideaux par vent, des zones de protection autour des fleuves et du sylvopastoralisme, en mettant en place ces systèmes, on serait capable d'absorber 34% de l'émission de CO2 de la société américaine actuelle. Donc ici, c'est un espoir énorme que nous offre l'agroforesterie. Et dans ce sens, j'aimerais vous remercier pour votre attention.
Voilà, c'était Ernst Jürcher, qu'on remercie encore de sa présence à l'ODEV exceptionnelle. Et on vous indique aussi le livre qu'il a écrit à Actes Sud qui s'appelle « Les arbres entre visibles et invisibles ». Vous pouvez donc découvrir l'ensemble des concepts qu'il a mis à jour. C'est vraiment très intéressant et ça ouvre des voies aussi bien pour l'agriculture que pour notre pensée personnelle de développement. C'est vraiment à suivre. Merci Ernst, on passe à la suite.
La suite, sans transition, c'est donc la rubrique chronique chasseur de sons. Et cette fois-ci, c'est Anna qui va nous parler encore de viticulteurs et de vignerons plutôt.
Oui, alors on revient sur la thématique qu'on a déjà un petit peu abordée la dernière fois, donc en février, qui est le labour avec donc le labour en l'entretien des sols des vignes avec le moyen de la traction animale, ce qui veut dire d'employer des chevaux ou des mules ou des mulets dans les vignes pour entretenir les sols. Et j'ai pu rencontrer un laboureur, c'est un métier, donc le laboureur à haut cheval, on dit pas à cheval mais au cheval, donc il emploie le cheval devant lui pour travailler les sols. Et ce monsieur, il s'appelle Nicolas Fabrier, il travaille dans le Minervois, donc dans l'Hérault, à l'extrême à l'est, dans l'est de l'Hérault presque, dans l'Aude, et il s'emploie à travailler donc les sols d'un domaine, Gérard Bertrand, et voilà, il nous explique un petit peu comment ça se passe et quels travaux il fait tout au long de l'année. Il y a beaucoup, je vous préviens, pas mal de notions et de termes techniques, mais on va développer ça après le son. Voilà, et Nicolas Fabrier.
Et il y a aussi pas mal de vent, accrochez-vous.
Il y a pas mal de vent, comme le pays,
comme dans
le pays l'impose.
Moi j'ai découvert le travail du sol, j'avais 6 ans, hein, avec mon grand-père. Il a vendu son cheval en 76, j'avais 10 ans.
Et vous, aujourd'hui, vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 50.
Voilà, et là, donc, ça fait combien de temps que vous travaillez
en traction animale ?
Au domaine et en traction animale,
alors,
les deux.
Ouais. Moi, j'étais prestataire de service il y a de ceci 15 ans. Je me suis installé il y a 15 ans. Et Gérard Bertrand faisait partie de ma clientèle. Donc, j'avais plusieurs clients dans le Languedoc-Roussillon. Ouais. Et Gérard, un jour, il y a 5 ans de ceci, il me dit « Maintenant, je te veux à plein temps. » Voilà, je lui dis « Écoute, fais-moi une proposition, ma foi.
Ouais.
Et si ça me convient,
je
te veux sur les 9 hectares et demi. Donc, ton rôle sera d'entretenir les sols, d'entretenir le domaine. »
Et sur l'année, vous pouvez dire les différents passages sur une parcelle du mois d'octobre jusqu'à la fin.
Voilà, une fois qu'on a donc buté, chaussé, jusqu'au fond de graisse, qu'on a désigné une crade au milieu dans laquelle on va mettre le compost. À partir du mois de février, on va commencer en raison de deux passages à droite, deux passages à gauche à déchausser et arriver à retirer la terre à ras de la souche. Et cette terre, elle est au milieu du rang. On va déchausser, nous allons décavaillonner, c'est-à-dire nous allons retirer la terre qui est entre les cèpes, entre les souches. Voilà, le rigout.
Le rigout.
Ça s'appelle un rigout. On retire le rigout. D'ailleurs, c'était le travail aux vacances de Pâques des femmes et des enfants. On leur confie un escarcelle, un rasclette. Et comme l'épaisseur n'était pas importante, ça venait seul. Voilà.
D'accord.
Tout ça parce que, si vous voulez, tout ça pour expliquer qu'il travaillait avant uniquement avec les brancards. Il ne faisait que déchausser.
Ouais, il ne faisait pas le décaraillonnage à l'époque.
Il ne pouvait pas décaraillonner parce que l'attelage libre est arrivé après. C'est-à-dire l'outil qui était conduit avec une chaîne et qui permettait d'aller sous le rang. Et dès que la décaraillonneuse est arrivée, ils ont supprimé le travail des femmes et des enfants aux vacances de Pâques. Donc maintenant, nous pouvons aller sous le rang pour sortir la terre restante. Voilà, donc l'évolution de l'attraction animale, c'était le brancard et puis après l'attelage libre. Donc voilà, donc une fois qu'on a décavaillonné, on passe un coup de cultivateur pour, vers le mois d'avril, mais on passe un coup de cultivateur pour mélanger les deux terres, la terre de butage et la terre de compost. On mélange le sol, donc le cultivateur c'est un vibroculteur, il a pour mission de vibrer les sols. On passe le cultivateur et une fois qu'on a passé le cultivateur, arrivé vers le mois de mai-juin, on chausse. En raison, on fait le butage d'appoint. On amène la fraîcheur et la nourriture sous le rang quand la plante en a le plus besoin. Voilà. Donc, butage d'été.
À raison aussi de 5
passages par an. Ouais. Début de la véraison, on passe le cultivateur pour entretenir cette zone-là. Voilà.
Okay.
En scarifiant les sols.
À plusieurs passages.
Et en évitant que les zones de refond, c'est-à-dire les zones par là.
Des zones de refond. Refond,
C'est la terre qui s'ouvre et qui permet à l'humidité de s'évaporer. Ce sont les cheminées qu'il faut justement fermer pour conserver le plus longtemps possible la fraîcheur. On scarifie les sols. Le cycle est bouclé à partir de fin août.
Voilà, donc ce petit témoignage de Nicolas Fabrier qui s'est passé un temps de grand vent, mais on a eu la chance de discuter donc de ses pratiques. Et c'est vrai que l'attraction animale, enfin le labour en général dans les vignes, c'est des pratiques évidemment très liées au terroir, donc qui peuvent être très très différentes selon les terroirs, selon les régions. Et là, ce qui nous explique donc Nicolas, il travaille avec une technique de labour, donc de retournement. Donc on peut employer soit des charrues, des bisocs, donc avec deux versoirs ou avec un seul, pour donc faire 5 passages. Ce qui nous explique au début, à partir du mois d'octobre, donc en hiver, on fait 5 passages pour amener la terre du milieu du rang, qui est des fois aussi appelé l'ample, donc du milieu de l'interrang vers les souches. Donc on ouvre la terre, on dit que la terre elle inspire, elle va vers les souches et on y met du compost. Donc du compost, là c'est du migou, donc du compost de brebis. Et des fois c'est aussi un mélange avec du marc de raisin. Et cette terre-là, elle est redéchaussée, donc déchaussée avec des décavaillonneuses ou avec des débuteuses, donc qui redéchaussent la terre vers le milieu, donc qui est ensuite remélangée avec un cultivateur ou ce qu'il appelle vibroculteur. Tu voulais poser une question, Tanguy, je te vois.
Oui, en fait, je me demandais, parce qu'il dit qu'à un moment, on a arrêté qu'à partir du moment où l'attelage a été libre, on n'avait plus besoin d'employer toute la famille, à savoir les enfants qui allaient décavaillonner, parce qu'il fallait passer entre les ceps et qu'on ne pouvait pas le faire avec un attelage rigide. Ça date de quand, ce transfert de technologie et cette modernité?
Mais c'est quoi la différence, du coup, attelage libre et attelage rigide?
Donc, j'allais en venir. Donc, c'est vraiment un développement, si vous voulez, d'innovation au sein de cette, on pourrait dire, technique ancestrale. On parle toujours de tradition, mais même au sein de ces traditions, il y a eu beaucoup d'évolutions. Les brancards, donc c'est comme, pour ceux qui connaissent un peu l'attelage, c'est un U en fer rigide qui finit sur un attelage en pointe qui n'a du coup pas de roue de terrage, la terre terrage, donc de roue qui pose au sol et qui va traîner derrière lui l'outil. Donc le tout est fixe et est tenu très, très proche derrière les postérieurs du cheval, donc le train arrière du cheval. Et ça permet surtout de travailler dans les gobelets. C'est un outil, c'est une technique, on va dire, c'est une technique de l'attelage qui permet d'employer des outils très spécifiques pour travailler en croisée dans les gobelets. Le gobelet, c'est une forme de taille de la vigne très locale, donc qui permettait d'avoir donc une parcelle de vigne plantée à peu près un 40 ou un 50 par un 50. Donc en carré, on appelle ça des fois la Galice ou le carré languedocien. Et ça permettait de vraiment croiser dans tous les sens, même trois fois, et de faire des passages très répétitifs et petites, avec des arrères, avec des petites pointes. Et c'était pas du vrai labour, alors que ensuite est arrivé le labour avec un travail sur des vignes sur fil, et on a de plus en plus monté les vignes en palissée, et même on a pu le faire aussi sur des gobelets, mais du coup les vignes elles dépassaient beaucoup moins, et on pouvait passer à ras les souches, le long des souches, donc le long du rang, avec un travail de labour à proprement parler, donc avec un retournement, et là les outils ne ressemblaient pas à la même chose. Donc on a employé des attelages libres, c'est-à-dire avec des chaînes et un harnais beaucoup plus léger par rapport à ce que représentent les brancards. Et cet attelage, on est capable avec lui d'aller assez souplement le long des rangs.
Voilà, on se rend compte que c'est très technique hein, finalement, et que c'est un métier, si je puis dire, et c'est même un métier qui demande beaucoup de qualité. On est en train de dépasser sur le temps de l'émission, du coup on va devoir faire court. Si vous avez des questions, envoyez un petit mail à Paysarmes, on les transmet à Anna, elle vous répond.
Avec plaisir, oui.
Le service après-vente. Du coup, j'en profite et je passe de nouveau la parole à Tanguy qui va nous parler de l'agenda des manifestations de Paysarmes.
Voilà, très vite, avant de se quitter, je voulais juste faire un petit rappel de calendrier. Il y a deux petits stages qui sont organisés pour la fin de ce printemps. Le premier qui s'appelle Aborder la friche, qui est un stage que j'aime bien, moi, enfin que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il est assez en concordance avec ce qu'on développe à Paysarmes, à savoir comment on arrive sur un terrain qui est abandonné depuis quelques temps et comment l'aborder, comme son nom l'indique. Ça, c'est fin du mois de mars, c'est 25 et 26, samedi, dimanche, hein, c'est deux jours consécutifs. C'est un stage sur lequel on va aborder donc la dynamique forestière et tout ce qui va avec, et puis derrière où on va aller jusqu'au greffage, et il y aura donc les techniques de greffe, et la deuxième journée est plutôt dédiée à la greffe. Et la deuxième date du printemps en Lodévois, ça va être le 9 avril, c'est un dimanche aussi, et là on passe à Selles, notre fameux verger de Poirier. C'est donc une parcelle qu'on est en train de transformer par la greffe et qui est en train de devenir un verger de Poirier domestique. Beaucoup de poiriers qu'on a récupérés sur le territoire qu'on centralise là-bas, c'est un peu un verger conservatoire. L'expérience est en marche depuis 3 ans, c'est très très beau. Au mois d'avril, les poiriers seront en fleurs et on aura sûrement nos premiers fruits sur cette parcelle cette année. Ça, c'est dimanche 9 avril. Voilà, ça c'est les deux prochains rendez-vous Paysarmes un peu techniques.
Et puis, en ce qui concerne les contacts, il y a toujours le mail de Paysarmes, donc si vous avez des questions, donc paysarmes, P-A-Y-S, arbre, @mailou.org, mailou, M-A-I-L, oo.org.
Et notre site internet qui est aussi Paysarbres.
Oh bah, tapez-le sur un moteur de recherche et vous le trouverez
Paysarbres.org,
tout de suite.
Il me semble, tout simplement.
Oui, ça c'est le nouveau, mais il n'est pas encore tout à fait à jour parce que je ne suis pas encore au top en termes de réalisation de site internet. Mais du coup, il y a le blog aussi. Enfin bon, voilà. Les moteurs de recherche nous connaissent bien. N'hésitez pas à chercher sur le web. On va se quitter avec une chanson de Ridan qui s'appelle L'agriculteur. Je voulais encore une fois remercier Radio Lodève qui nous accueille toujours avec plaisir et le sourire. Et puis vous remercier de votre écoute. Et puis voilà. À bientôt, au mois prochain. Salut, salut, joli printemps.
Merci, merci, au revoir.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, toute l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. J'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Juste un petit mot avant de se quitter, c'était pour dire que maintenant Radio Lodève a mis le pied dans le 21e siècle, il y a Radio Lodève 2.0 et vous pouvez réécouter toutes les émissions de la radio sur le web. Vous en avez de la chance, alors vous n'avez plus aucune excuse pour pas écouter les émissions de Radio Lodève. Vous pouvez toutes les réécouter sur leur nouveau site internet www.radiolodève.com.
Notre site internet paysarbre.org.